La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour, vous écoutez la midinale de Radio Piquet. On est lundi 22 juin, il est à peu près midi, et donc je m'appelle Kat, je suis en compagnie de Thibaut,
salut.
De Pierre,
salut.
Et de Steph,
salut.
Salut. On va commencer direct par la revue de presse, et il y a un article, un édito même du Télégramme, qui a retenu notre attention, qui était bien cracra.
Ouais.
Alors, Pierre, tu voulais nous en causer, tu l'as sous les yeux.
Ouais,
toi.
Peut-être qu'on va en causer un peu ensemble, non ? On a essayé de, le, ouais. de se le partager, de l'avoir sous les yeux, un peu tous. Mais ouais, donc c'est l'édito du 13 juin du Télégramme, donc signé Hubert Coudurier, le patron du Télégramme. Et donc. Ce qu'on aimerait bien, c'est pas vous le lire en entier, un texte qui nous fait gerber, quoi. Qui est rempli de mensonges, de contresens, de...
révisionnisme.
De révisionnisme, enfin voilà. Mais on va peut-être essayer de prendre des petits bouts, et voilà, essayer d'en tirer des conclusions sur ce qu'est ce journal, à quoi il sert, et à quoi ça sert de le lire, quoi. Ou pas. Le titre, en tout cas, c'était le poison de l'indigénisme. Le chapeau, c'est « Hubert Coudurier nous donne son point de vue sur les manifestations dénonçant les violences policières et les réactions politiques qu'elles suscitent. » Voilà, alors il y a plusieurs trucs qui vont pas aller du tout là-dedans, et puis il n'y a rien qui va, quoi, après, de manière générale. Un des premiers trucs sur lesquels je voulais revenir, c'est ça correspond à un des points du discours dominant qu'on retrouve dans tous les autres médias traditionnels, sur les chaînes d'infos, machin, c'est l'américanisation de... en gros, on a rapporté des États-Unis les conflits raciaux, on va dire, alors qu'il n'y en a pas en France. Ouais. Et la façon la plus bête et méchante de résumer ça, c'est que les manifestations qui ont lieu... aujourd'hui, en France, ça vient de la mort de George Floyd aux États-Unis et de la mobilisation. Donc, il y a plusieurs présupposés faux là-dedans. Hein. Ce serait d'une que les mobilisations aux États-Unis, elles viennent de la mort de George Floyd, qui est un symbole, mais personne n'a attendu cette mort-là pour s'organiser, personne n'a attendu telle mort particulière pour s'organiser. Et après, dans un deuxième temps, que ça aurait été importé en France et que ce qu'on pourrait voir aujourd'hui en France serait une américanisation d'un truc voilà, rapporté des États-Unis mais qui n'existe pas ici. Voilà, c'est la même chose. Enfin, en gros, les gens ici, ils n'ont pas attendu que quelque chose bouge en Amérique ou dans le reste du monde. Hein. C'est encore une autre fausseté. Enfin, le monde entier là, se soulève contre nos sociétés racistes et ça se passerait que en France et aux États-Unis, quoi. Mais en France non plus, personne n'a attendu la mort de George Floyd pour s'organiser, encore moins les gens qui sont à la tête des organisations qui organisent aujourd'hui la lutte. Quoi. Un autre non-sens là-dedans, et qui correspond aussi au discours dominant, c'est après, je ne sais pas si vous avez envie de... Voilà, de rajouter quelque chose, dites-moi. Alors, un autre truc qui correspond au discours dominant, c'est de personnifier le combat. derrière la figure d'Assa Traoré. Donc voilà, Assa Traoré, effectivement, c'est une héroïne de ce combat, on va dire, sa ténacité, toute la famille et tous les gens qui sont autour d'elle inspirent beaucoup. Mais un des points communs à toutes les mobilisations qu'il y a, c'est plutôt de mettre en commun des luttes, on pourrait dire éparses, voilà, mais différents comités qui se battent pour la vérité et la justice, et pas de se mettre tous derrière une tête ou machin. Il y a une volonté de, donc toujours des médias traditionnels, de de réduire la question à la personnalité d'Assa Traoré ou à la personne d'Assa Traoré, ce qui est à la limite du crime pour moi déjà, parce qu'en gros ça lui met une cible sur la tête pour tous les fachos. Donc, bon, voilà, pour moi les gens qui font ça c'est des criminels. Et en plus, qui est vraiment une façon d'invisibiliser l'ampleur du combat derrière, comme si c'était une personne qui s'était mobilisée, puis entraînait toutes les banlieues de France. Voilà. Bon, vous en a assez parlé à cette antenne pour et puis tu vois, pas depuis la mort de George Floyd, et puis pas que du combat vérité justice pour Adama Traoré, que on n'a pas besoin de vous expliquer peut-être beaucoup plus pourquoi c'est un mensonge. Si vous croyez toujours ça, lisez autre chose que le Télégramme peut-être. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On retrouve dans le Télégramme là aussi des éléments de diffamation. Donc c'est aussi un des buts derrière la manœuvre de personnifier le combat. C'est donc là, on vous en lit un bout hein, quand même, parce que si on parle de diffamation, il faut être un peu précis. Là, c'est donc on parle d'Assa Traoré. Et derrière la phrase, c'est « Mais pour ce gang familial au casier judiciaire long comme le bras. » Avoir risque, blablabla, je vous lis pas la fin parce que c'est de la merde. Mais voilà, donc on comprend pas trop bien déjà la phrase, parce que la phrase d'avant parle d'Assa Traoré, pas de sa famille. Mais ce qu'il y a derrière, c'est la famille Traoré, donc ça fait suite à... c'est le message de la fachosphère, hein, c'est... j'ai pas envie de le nommer non plus, mais un des tocards meneurs de la fachosphère qui a mis en ligne la liste des condamnations étant tombées sur la famille Traoré, et donc qui effectivement mise bout à bout, si t'as que deux neurones dans ton cerveau et que t'as un petit problème avec les calendriers, peuvent être présentés en tout cas par un coudurier comme un gang familial au casier judiciaire long comme le bras. En fait, concrètement, il y a eu deux condamnations dans cette énorme liste là. Il y a que deux condamnations qui sont passées avant la mort antérieure à la mort d'Adama Traoré. Et du coup, toutes les autres derrière, c'est l'acharnement judiciaire sur la famille qui demande vérité et justice. Donc, il y a encore certains de ses frères qui sont enfermés, par exemple, et c'est des prisonniers politiques. C'est pas parce qu'ils ont, fait whatever qui est contre la loi, quoi. C'est juste parce qu'ils ont, ils persistent à demander vérité et justice dans cette affaire-là, et du coup, la justice les fout en tôle. Donc ça, le comité Vérité et Justice pour Adama semble avoir entamé une nouvelle part aussi de sa tactique en attaquant en diffamation des journalistes. Donc je crois que c'est Bourdin et puis je sais plus qui, peut-être Barbier ou un truc comme ça, qui ont tenu le même genre de discours. Donc voilà, nous, de notre côté, on réfléchit peut-être aussi à ce qu'on pourrait faire dans notre petit coin, donc avec notre PQR et notre Télégramme torchon de merde, parce que ça, c'est un mensonge. Et encore une fois, c'est criminel, parce que En attendant, cette famille-là, ils sont dans la merde. Ils sont, il y en a qui sont en tôle. Ils risquent leur vie en sortant de chez eux, en gros, de se faire buter par des fachos. Et donc ça, c'est vraiment, encore une fois, mettre une cible sur l'ensemble de la famille et des gens qui luttent avec eux. Voilà. Quoi d'autre ?
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que pour ceux qui l'ont pas lu, en fait, c'est très court et à chaque phrase, il y a une énormité, en fait.
Ouais, c'est abject.
C'est vraiment hallucinant. C'est un condensé de un pot pourri, quoi, de merde. Et donc, ça met en doute le fait qu'il y ait des morts. Parle rien que le titre
le poison de l'indigénisme.
Voilà, ça vient surfer sur un truc bien dégueulasse et donc c'est toujours ce que dénonce d'ailleurs le comité Justice et Vérité pour Adama depuis à chaque discours, c'est la criminalisation de cette famille et c'est toujours cette façon de faire pour tous les cas à chaque fois en fait de toute façon qu'il y a un mort sous les coups de la police, c'est toujours cette technique là qui est mise en avant et c'est vraiment c'est vraiment à chaque phrase qui a une énormité quoi. C'est
dans cet article en deux mots. Entre parenthèses, on vient nier complètement les violences policières en France. C'est un truc qui dit... je sais plus, ça me gonfle de toute façon cet article.
Morts bien réelles...
Ouais, personne ne peut sérieusement comparer les violences policières en France à celles bien réelles aux États-Unis. Ce qui veut dire que les 12 morts sous les coups de la police en deux mois pendant le confinement, elles n'existent pas. Adama Traoré, il n'existe pas. Enfin, non, de toute façon, pour ces gens-là, ils n'existent pas, c'est clair. Et à chaque phrase, hein. Peut-être t'allais y venir, mais sans parler de la fin de l'article, qui là, pour le coup, est un truc de révisionniste. Enfin,
la colonisation,
ouais.
Tu dis.
Ouais, ouais. Et c'est. Enfin, terminé comme ça, c'est.
Ah oui, rappelle qu'en gros, il y a eu des bienfaits quand même de la colonisation.
Que la colonisation, certes, il faut pas nier que la France a été une puissance coloniale, ce serait quand même vraiment gonflé de le nier. Donc on va pas le nier, ça. Mais qu'il faut pas oublier les belles histoires de la colonie et des hommes là-bas qui croyaient en leur mission civilisatrice, sans doute en torturant les populations. Hein. Tu les civilises mieux, quoi. Mais tout est abject. Hein.
Ouais, l'ensemble, en gros, moi, me fait penser qu'il a choisi son camp, Couturier. C'est un peu un bingo extrême droite, hein, donc entre la mission civilisatrice de la colonisation, peindre une cible sur la tête de personne. Il y a aussi une critique assez hallucinante de la ministre de la Justice et de... Enfin, ouais. Pour Couturier, hein, je veux dire, de la ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, qui est
assez classique de l'extrême droite.
Ouais, et puis qui montre qu'il a choisi son camp. Hein. Ouais. Normalement, dans le Télégramme, on critique pas le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur.
Hein. Et il y a quand même une très belle phrase en plein milieu qui dit « Comme l'a justement dit Philippe de Villiers ».
Voilà, ça cite De Villiers, donc bon, ça c'est assez clair aussi. Il y a la négation des violences policières, voilà, ça a l'air, d'être devenu quasiment mainstream, des fois.
Et l'existence du racisme anti-blanc.
Oui, il y a ça aussi. Et il le dit pas comme ça.
Ah oui, le racisme peut s'exercer dans les deux sens, donc voilà, un vieux classique aussi de l'extrême droite.
En termes d'écriture, les violences... bien réel entre guillemets entre virgules aux États-Unis et quand il parle de ça exacerber le racisme entre parenthèses qui peut s'exercer dans les deux sens, c'est genre je te le dis mais je te le dis pas vraiment parce que je te le mets dans, enfin tu vois, en termes d'écriture on enferme un peu quand même, c'est pas ça mon propos premier mais quand même je te le mets là quoi. Oui, et ben la grosse Badinter elle a encore eu une couverture une pour dire la même chose, quoi. Ce nouveau racisme, ça va, ils nous font... Enfin, c'est, de toute façon, ça fait un petit moment que ça joue là-dessus. Mais là, effectivement, cet article-là, il est... enfin, cet édito... c'est un édito. Mm. Il est hallucinant à quel point...
Et on rappelle, tombe, du coup, quoi. Pour ceux qui habiteraient pas à Brest ou en Bretagne, que le Télégramme, surtout dans le Finistère, c'est vraiment le
journal le plus lu.
Quotidien le plus lu.
Ouais, c'est comme la Dépêche dans le Sud-Ouest, je sais pas, la Voix du Nord dans le Nord-Est, dans le Nord-Ouest.
Donc là, première page.
Et donc voilà, après, moi, du coup... quand une position aussi claire est prise quoi, par le patron du journal dans un édito, en plus, je veux dire, pas à un moment un peu particulier, quoi, parce que ça se met en face des mobilisations quoi, pour la justice et pour des droits égaux pour tout le monde. Et ça me pose la question d'une des gens qui continuent à acheter ce torchon, c'est-à-dire à financer ce message-là quotidiennement, par leur abonnement. Ça me pose la question des subventions publiques, puisque le Télégramme en reçoit, comme la plupart des grands quotidiens traditionnels. Donc c'est aussi financer cette parole-là, et ça me pose aussi toujours la question des gens qui y travaillent. C'est-à-dire que quand ton journal et ton patron s'engagent dans ce qu'on appellera dans 20 ans la collaboration, il est peut-être temps quand même de te demander... pourquoi tu travailles là-dedans et comment tu vas faire pour te regarder dans le miroir dans 20 ans. Donc, en gros, c'est des questions assez difficiles parce que c'est vraiment le quotidien que tout le monde lit. Et c'est la PQR, tout le monde ne le lit pas pour l'édito d'Hubert Coudurier, heureusement. Mais c'est quand même en première page, c'est quand même l'édito. Mais le problème, c'est que c'est aussi ça qui raconte le club de foot de ton bled ou la fête au domino, whatever, et les avis de décès, les chiens écrasés. Donc, quand même une sorte de mission d'information publique qui n'est pas assurée ailleurs que dans le Télégramme, disons. Et pour moi, moralement, tu peux pas t'en sortir en disant juste ça. Ça vaut pas le coup de te faire brainwash par un journal qui en gros assume les idées des syndicats policiers d'extrême droite les pires, juste pour avoir les avis de décès ou ce qui s'est passé dans le club de foot. Ce qui s'est passé dans le club de foot, tu l'apprendras autrement ou tu l'apprendras pas, on s'en fout. Mais par contre, financer ça, c'est participer à ce qui est en train de se mettre en place et qui va pas être joli joli si on laisse faire, quoi. Et encore moins si on le finance.
Ok. Bon, on change de journal. tu voulais aussi nous parler d'un article de Street Press.
Ouais, il y a pour faire un peu le contrepoids à cet édito dégueu. Heureusement, il y a des gens qui font encore du journalisme en France et dans des journaux qui peuvent se regarder en face. Street Press, entre autres, moi j'adore ce qu'ils font en ce moment. Enfin, j'ai toujours bien aimé, mais là je trouve qu'ils sont... C'est sans doute le journal à lire en ce moment, en tout cas sur ce sujet-là. Il y a un article qui est sorti le 19 juin, et qui est titré « Le mouvement de l'immigration et des banlieues, matrice politique du comité Adama ». Donc ça va nous raconter l'histoire du MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, par la voix de Samir Eliès, qui est un ancien et aussi un membre du comité Vérité et Justice pour Adama. C'est un bel article, hein. il fait des pages, c'est normal, il y a une grande histoire aussi à raconter, donc c'est un peu par opposition à tout ça vient de la mort de George Floyd aux États-Unis. Le MIB, c'est né en 95, Et voilà, ça peut être considéré comme la matrice des luttes d'aujourd'hui. C'est considéré comme la matrice des luttes par pas mal des gens qui sont organisés aujourd'hui. Je vous lis le début et la fin de l'article, parce que c'est beaucoup trop long à lire en entier. Je vous conseille d'aller le lire en entier, c'est très intéressant. Le début, alors, on est tous des enfants du MIB, donc c'est Samir Elias qui parle. Le mouvement de l'immigration et des banlieues est né en 1995 et Samir Elias pourrait en parler des heures. Attablé chez lui ce jour-là, Diane Eba et Mahamadou Camara, dont les deux frères respectifs Ibrahima et Gaï, sont morts dans le cadre d'interventions policières. Ils parlent politique, discrimination et des manifestations à venir. Entre guillemets, le MIB nous a donné une école, ils nous ont expliqué comment s'impliquer dans nos quartiers, qu'on pouvait prendre la parole, que personne n'avait à parler et à agir pour nous. Continue Samir. Une fois les parts de gâteau terminées et les verres d'oasis vides, il s'isole sur sa terrasse, une clope à la main, pour raconter l'histoire des radicaux et des luttes de l'immigration. Ceux qui, d'après lui, ont réussi à agir à l'échelle locale pour se faire entendre dans le débat public national. Ceux dont aujourd'hui s'inspire le comité Vérité pour Adama, dont il fait partie, et la majorité des autres comités de victimes de violences policières. Dans toute la France, le mouvement de l'immigration et des banlieues a créé un réseau de militants formés et soudés. Ils créaient des comités et scandaient « justice et vérité » ou « pas de justice, pas de paix » des années en arrière. Les luttes ont une histoire, nos quartiers ont une histoire, et c'est ça que je veux te raconter. Voilà, donc il va nous raconter tout ça. Et voilà, la fin de l'article revient sur, au-delà de l'histoire justement du MIB, sur le parcours d'Assa Traoré. On lui demande « Aujourd'hui, c'est une femme noire qui incarne le combat contre les violences policières aux yeux du grand public. Comment Assa Traoré est devenue ce symbole ?» Il répond donc « Il n'y a rien d'individuel. Elle se bat pour un collectif. Derrière elle, il y a la construction d'une parole collective. On ne dit pas que ça va marcher. On ne dit pas qu'on va réussir, mais on est en train de le faire et de construire. Elle a des soutiens incroyables de tous les bords. Les gens sont aussi plus aptes à écouter les revendications des quartiers populaires. Grâce à des médias indépendants comme Street Press, le Bondy Blog, La Meute, grâce à certains sociologues ou certains journalistes comme Elsa Vigoureux de l'Obs qui a fait un travail magnifique avec Assa et son livre. Mais dans le fond, rien n'a changé. Prenons un exemple, Gaï Camara en 2018, Youssef Kaif en 1991, Abdelkader Bouziane en 1997 sont tous morts d'une balle dans la nuque de la même manière. Ibrahima Ba en 2019 et Mohamed Berichi en 2002, morts en scooter poursuivis par la police. Avec derrière les mêmes arguments, erronés, de criminalisation. Scooter volé, détention de drogue, sans casque, etc. Tariq Kautari nous a appris « Quand tu as affaire à une organisation, tu montes une organisation. Tu montes un contre-pouvoir. » Et la dernière question qui lui est posée « Et le MIB va continuer à transmettre ?» Il répond « Non, on se bat, on laisse un héritage et à un moment on arrête. On est essoufflé. À un moment on se regarde dans une glace et on se demande « Attention, est-ce qu'on va pas devenir paternaliste nous aussi ?» Et dans ces cas-là, on arrête et on essaye de créer quelque chose de nouveau. On a arrêté le MIB, mais pas son idéologie. Voilà, ça répond aussi à ce qu'est le comité Vérité et Justice pour Adama et aux questions de génération de lutte dans les quartiers populaires. Je vous conseille vraiment cet article, il est génial. Et sans l'histoire du MIB, en tout cas, tu peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ou comment c'est organisé, ou quels moyens de lutte sont utilisés. Et c'est aussi, le MIB, c'est aussi une histoire de succès, quand même, de lutte réussie. Alors, c'est des trucs qui peuvent parfois paraître anecdotiques par rapport à une société équitable, quelle que soit ta couleur de peau, mais qui sont des vraies réussites. Il y a des gens qui ont été sauvés, et des gens qui se sont sauvés aussi en luttant à l'intérieur du MIB.
Ok. On va faire une petite pause. On reviendra pour la deuxième partie. S'informer autrement, on reparlera de The Intercept.
Oh yeah.
Et on parlera d'un événement local dont on garde la petite surprise. Qu'est-ce qu'on va écouter, la snob?
On écoute Porcherie et La meilleure des polices de La Rumeur.
Spéciale dédicace à toi, Hubert.
Ouais, ça est pour toi.
Merci! Les hommes se comportent comme les porcs, et le match en batterie avec mes liens de temps de main. Nous sommes à l'heure des paradis, on y est au prix sur son débit. Nous sommes dans un état de jade, et partout c'est le roi du vin. Pensez, prostitution organisée, plus des passions, j'ai bien montré les pandémies. L'attention monte et tiens gré. Oublie dans les laboratoires, marcher dans les cigarettes, prisonnier derrière tout pas loin. Pensez. Et aussi les spécules, en les fous du gouvernement, en Europe les mauvais combis, en les bouchons des Allemands. Pensez. Un homme suit un temps morceau, dynamique et parti pour haut, et ça se convoque à la violence, le temps devient ultra-violent. Monétaire, de l'autre l'ombre militaire, pour finir en règle en bon, à vous le sac de soi et non.
Parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nos
mettre à table, tous en place, tous remis en cage, doux, sages, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang, du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés. C'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Tout ce que tu pectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou.